20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Une fois n'est pas coutume, le magazine d'archéologie de France Culture quitte le crissement des truelles, le couinement des pelles et des rasettes, le feulement des brouettes. Ce soir, enfin, le bruit fait place au son, aux sonorités à jamais disparues. Après l'archéologie du fugace, aujourd'hui, place à l'histoire du sensible, puisque nous allons tenter de savoir si la musique, les musiques, peuvent être les échos de l'Antiquité. On le sait, quelques vieux instruments ont été exhumés, mais pour autant, des sons seraient-ils parvenus jusqu'à nous? Pour relever ce défi, deux invités, Sybille Emery, Violaine Jamais, bonjour. Chargée de recherche au CNRS, Sybille Emery, vous êtes égyptologue, ancien membre de l'Institut français d'archéologie orientale, spécialiste des Tanagra et conservateur en chef du patrimoine. Violaine Jamais, vous appartenez au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre. Toutes deux êtes surtout co-commissaires de l'exposition « Musique écho de l'Antiquité » qui se tient actuellement au Louvre-Lens. Sybille Emery, la musique serait-elle un bon instrument pour découvrir les grandes civilisations de l'Antiquité? Rien n'est moins sûr.
Oui, tout à fait. C'est un excellent instrument pour découvrir le fonctionnement des sociétés anciennes puisque la musique est omniprésente dans toutes les sociétés. On dit d'ailleurs que c'est un art universel.
Pour les archéologues, la musique commence par l'exhumation de drôles d'instruments dont je ne connaissais pas l'existence, notamment le sistre égyptien.
On trouve effectivement des sistres. Le sistre égyptien, c'est une sorte de hochet. Vous avez un manche avec un arceau, avec des tringles. Et dans l'Égypte ancienne, on rajoutait même des sonailles. Donc quand on l'agitait, ça produit du son. Et encore aujourd'hui, pour ceux qui sont bien conservés, on peut obtenir des sonorités.
C'est un instrument qui serait lié aux déesses égyptiennes, notamment Bastet, mais surtout Hathor, déesse de la musique.
C'est l'instrument de prédilection de la déesse Hathor et on le voit en fait dès l'ancien empire comme instrument de musique utilisé dans son culte. C'est un instrument qui à la fois est à son effigie, qui représente la déesse elle-même et qui est là pour l'apaiser par le son qui est produit.
Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu cet instrument? C'est quelque chose d'assez bizarre, c'est une sorte de long bâton, on devait dire une sorte de tige avec des barres transversales et puis des sonailles, c'est à peu près ça?
Oui, tout à fait. Donc on a deux types de sistres dans l'Égypte ancienne, celui que vous venez de décrire qui est généralement en bronze et on en a également qui sont en faïence siliceuse. En fait, ils employaient toutes sortes de matériaux pour faire ces objets qui sont à la fois des objets vraiment cultuels et qui émettaient en plus du son.
Où trouve-t-on ce genre d'instrument en général? Dans des tombes, par exemple?
Pour les sistres, on a peu, malheureusement, de contexte archéologique de découverte. Beaucoup d'entre eux proviennent des temples, pour ce qu'on a pu trouver, et quelquefois aussi dans des tombes.
Alors pourquoi la déesse Hathor serait-elle liée à la musique, et notamment à cet instrument?
Alors c'est difficile, c'est pas comme dans le monde grec et romain, on n'a pas une mythologie qui nous raconte en quoi Hathor est une déesse de la musique. On sait par ses épithètes, elle porte plusieurs épithètes divines, qu'elle est associée au son, à la musique, au chant, à la danse, à l'amour, aux émotions. Donc c'est une déesse assez complète, assez complexe, et dans lequel à la fois il y avait l'usage d'instruments à percussion, comme les tambourins, les sistres, mais aussi des instruments à cordes, comme la harpe.
En Égypte, les instruments de musique seraient mieux conservés qu'ailleurs?
Complètement. L'Égypte bénéficie d'un climat exceptionnel qui a permis la conservation d'objets pour les instruments de musique qui utilisent du bois, qui utilisent des peaux pour les tables d'harmonie, qui utilisent des fibres végétales. Et c'est grâce à ces conditions exceptionnelles qu'on a des harpes qui sont quasiment complètes.
Violaine Jamais, les instruments voyagent aussi, les instruments de musique voyagent, notamment ces sistres qui atteindront la Grèce et Rome.
Oui, alors entre autres instruments, le sistre effectivement est un des instruments qui voyage. On le retrouve d'abord en Grèce, en lien avec le culte de la déesse Isis, hein, qui est une des composantes de la déesse Hathor en Égypte, avec une iconographie qui est peut-être davantage adaptée, puisque par exemple à Rome, on trouve sur l'arceau non plus la tête de la déesse Hathor, mais une louve, la louve de Rome, par exemple.
Il y a aussi la salpinx dont le Louvre possède un exemplaire depuis 1883.
Oui, alors là on change d'instrument, il s'agit d'une sorte de trompette. Et effectivement, cette salpinx a été doublement exhumée puisque d'une part dans le sol de la Grèce ancienne et de la Turquie actuelle à Myrina par les fouilles de l'école française d'Athènes à la fin du 19e siècle. Et puis finalement assez récemment dans les réserves, ces éléments qui avaient été trouvés dans une tombe, on ignore le sexe du défunt, ont été retrouvés dans les réserves. Ils avaient été disjoints puisque cette trompette avait été composée d'éléments en os et en alliage cuivreux qui étaient, si je puis dire, d'une certaine manière, raboutés les uns aux autres pour constituer cette trompette. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment de la restauration de ces instruments, on s'est rendu compte que la chaîne de suspension avait été mise volontairement au moment de l'inhumation à l'intérieur du cornet. Donc elle s'était concrétionnée avec la corrosion du métal et que grâce à la vigilance de la restauratrice, on a pu avoir ce témoin d'un rite d'inhumation, c'est-à-dire le bris volontaire, enfin la dissociation volontaire des différents éléments de cette trompette et ensuite la chaînette qui avait été mise à l'intérieur, donc au moment de l'inhumation.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans cette tombe, il n'y avait quasi que ça.
Dans cette tombe, alors oui, ce site de Myrina, que je n'ai pas donné le nom tout à l'heure, donc en Turquie actuelle, a été fouillé, ce sont les nécropoles qui ont été fouillées, et il y avait certaines tombes qui étaient extrêmement riches, avec un mobilier céramique très abondant. Il se trouve que dans cette tombe, il n'y avait apparemment qu'une petite fiole en terre cuite, donc quelque chose de très simple, et puis ce magnifique instrument.
Alors comment les archéologues interprètent-ils en général ce type de tombe quand ils découvrent des instruments de musique?
Alors la plupart du temps, on pense qu'on a affaire à des tombes de musiciens. Je pense en particulier aux fouilles de Bernard Bruyère à Deir el-Médineh, qui dans les années 1930 a mis au jour 22 tombes et dans 5 de ces tombes des instruments de musique, des lyres. Deir el-Médineh est un site qui est à côté de la Vallée des Rois. Ce sont les ouvriers qui ont décoré les tombes de la Vallée des Rois.
Les premiers à faire grève de l'humanité.
Et donc il a interprété ces différentes tombes comme des tombes de musiciens parce que plusieurs instruments de musique y avaient été trouvés.
C'est vrai que Sybille disait tout à l'heure que le climat égyptien était particulièrement propice à la conservation des matériaux organiques. Et on a quasiment plus d'instruments en bois en Grèce. En revanche, on a quand même eu la chance de découvrir en 1981, lors de fouilles de sauvetage près du Pirée, donc dans la banlieue d'Athènes, le port d'Athènes, une tombe, sans doute d'une instrumentiste aussi, qui conservait des éléments d'une carapace de tortue, donc une lyre, ainsi qu'un holos, donc le hautbois, et enfin, chose tout à fait exceptionnelle, c'est la seule harpe que connaissent, donc des éléments d'une harpe grecque.
Elle a été reconstituée, d'après mes souvenirs? Ou quelque chose de similaire, en tout cas?
Oui, enfin, elle est présentée dans les vitrines du musée du Pirée et avec les autres éléments de cette tombe qui était assez riche, dont des tablettes de cire et des fragments de papyrus.
Sybille Emery, il nous faut aussi parler de l'orgue hydraulique de l'Égypte hellénisée.
Oui, alors c'est une invention, pour une fois, on connaît le nom de la personne, hein, qui n'est pas une divinité, qui est un être humain, qui a créé cet instrument au 3e siècle avant Jésus-Christ Alexandrie, et qui a connu une large diffusion dans tout le monde gréco-romain.
Oui, on connaît d'ailleurs un certain nombre. Alors, on a un orgue hydraulique, en particulier à Dion, des éléments qui restent donc de cet orgue, et sinon des témoignages iconographiques.
Et ça marche comme notre orgue?
C'est l'ancêtre de notre orgue, mais alors c'est un système très complexe qui fait jouer de l'eau et de l'air pulsé.
Vous avez besoin de 2 esclaves pour l'actionner.
Oui, c'est vrai que j'avais oublié les esclaves. Puisque c'est l'eau qui va faire partir l'air dans les tuyaux. Voilà. Mais c'est vrai que les esclaves étaient nécessaires.
Violaine Jamais, dans la Grèce antique, chaque dieu semble avoir son instrument?
Alors, pas chaque dieu, mais c'est vrai que les Grecs, contrairement peut-être aux Égyptiens, ont eu besoin de lier des instruments à une invention divine. Donc, bien sûr, on connaît l'invention de la lyre par Hermès, l'holos par Athéna, qui est repris ensuite par Marsyas, et qui devient l'instrument aussi de Dionysos, qui a d'ailleurs des éléments assez proches de la déesse Hathor dans cette espèce d'ambivalence entre le délire un peu orgiaque et en même temps la joie, enfin bon, des quelque chose de, et puis de destructivité et de créativité selon qu'on respecte ou non le culte et la rigueur du culte.
On peut dire que les dieux sont créateurs d'instruments.
Les dieux sont créateurs d'instruments, oui, tout à fait. Et Dionysos s'empare de l'holos, Apollon de la cithare, et ça devient une espèce de, oui, des éléments emblématiques de leur divinité.
Alors justement, qu'est-ce que l'holos ? Une sorte de drôle d'instrument qui rend laid, paraît-il ?
Qui rend laid, oui, alors effectivement, puisque c'est Athéna qui avait découvert cet instrument et qui avait eu l'idée de souffler donc dans ses roseaux et qui, lorsqu'elle s'est vue avec les joues gonflées, puisqu'effectivement, c'est en réalité, cet holos, c'était ce qu'on a appelé longtemps une double flûte, mais qui est en réalité un hautbois par la présence d'une double hanche. Et ce sont donc deux tuyaux percés qui sont joués simultanément et Athéna avait été horrifiée de se voir ainsi avec les joues gonflées et donc la rejeter, ce pourquoi Marsyas, passant derrière elle, a récupéré cet instrument.
Alors on a beaucoup de représentations de l'os dans l'art grec.
On a énormément
des vases, des fresques.
Absolument, on a énormément de représentations de l'os. On les retrouve donc comme vous le dites sur toutes sortes de supports. C'est un instrument qui est plutôt lié à Dionysos, par opposition avec Apollon et sa cithare, qui est l'aspect peut-être moins démoniaque, n'est pas le bon mot, mais enfin plus raisonné.
Sibylle Emery, en Égypte, Osiris aurait été le créateur de cet art, la musique, mais par là même, il est aussi le maître du silence. Tout ça paraît bien contradictoire.
Alors en Égypte, c'est un peu plus compliqué parce que c'est les auteurs grecs hein, qui lui attribuent l'invention de la musique justement pour civiliser le monde. Mais rien à l'heure actuelle, dans ce qu'on connaît des textes égyptiens, ne nous le dit. Le terme même de musique, en fait, n'existe pas dans l'Égypte ancienne. Et on a au contraire une opposition entre un monde créé, l'univers, qui est un monde sonore, et la mort, qui est un monde silencieux. Et la fin du monde correspondrait justement à la fin de l'humanité, à la fin du bruit. Et Osiris, qui est un dieu emblématique, qui est le dieu des morts, est appelé justement le maître du silence, puisqu'il règne sur le royaume des morts.
Les dieux sont aussi dotés d'une ouïe hors du commun, bien sûr. Et pour leur parler, il y a donc des stèles à oreilles que l'on trouve d'ailleurs un peu partout en Égypte, en Grèce.
Oui, absolument. On le trouve surtout peut-être plutôt on a de bons exemplaires en Sicile avec des tubas qui sont en terre cuite et qui sont pourvus d'oreilles. Et pour l'Égypte,
en Égypte, c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup au Nouvel Empire. On a beaucoup de stèles oreilles qui montrent ce qu'on appelle une piété populaire, c'est-à-dire une manière d'attirer l'attention des dieux quand on lui adresse une prière. Donc il y a une tendance à multiplier le nombre d'oreilles par magie en fait, hein, pour que cette écoute soit encore plus forte.
Parmi les instruments, il y a aussi, bien entendu, la flûte de Pan, dont une découverte dans le Fayoum égyptien fut jouée par un musicologue, Hans Hickmann.
Oui, c'est absolument incroyable quand on y pense. Je crois qu'on n'oserait plus aujourd'hui, si on trouve une flûte ou une flûte de Pan, de le prendre directement et de jouer à l'intérieur.
Enfin,
mais
on
il est
pas
vrai...
là quand les archéologues trouvent les flûtes, trouvent les instruments toujours.
On pourrait peut-être demander si on peut souffler dans celle du Louvre.
Exactement.
Qui est exposée à Lens.
On va voir son démontage de l'expo.
C'est un objet qui vient de Grèce et qui est diffusé vers l'Égypte, tout au contraire.
Oui, c'est pas du tout un objet égyptien, c'est un objet de culture grecque. En revanche, encore une fois, c'est grâce au climat exceptionnel de l'Égypte qu'on a pu en découvrir en Égypte.
Et d'ailleurs, la flûte de Pan est une invention du dieu Pan.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Une chose est sûre, la musique est adossée au pouvoir.
Ah oui, absolument. C'est un instrument du pouvoir essentiel. Alors, on le trouve de manière plus ou moins forte dans telle ou telle civilisation. Et notamment, alors, pour le monde égyptien, ce sera plus lié à la monarchie ou à Rome. Mais pour le monde égyptien, oui, Sybille.
La musique est un instrument du pouvoir dans l'Égypte ancienne. Les premières représentations, les représentations de musique, on en trouve très anciennement, mais surtout les titres de musiciens, c'est-à-dire ceux qui ont fait profession et qui étaient attachés à la cour du roi, on en trouve que ce soit en Orient ancien ou dans l'Égypte ancienne dès le 3e millénaire. Et on voit qu'ils sont essentiels à la fois à la vie de cour, certainement pour des banquets qui sont très peu représentés en Égypte, mais très souvent par contre en Orient ancien, et qui sont également associés au temple, puisque le roi est finalement garant du culte, garant de l'équilibre du monde. Il est souvent lui-même musicien, où les princesses, les reines tiennent les instruments de musique. Et donc, on connaît tous ces musiciens qui avaient une carrière au sein soit de la cour ou soit des temples.
Alors bien sûr, c'est la musique qui est adossée au pouvoir, mais elle est aussi par essence un auxiliaire du sacré.
C'est un auxiliaire du sacré puisque elle va permettre l'exécution rigoureuse du rite. Et c'est peut-être encore plus sensible dans le monde grec et romain, où il faut d'abord partir en musique, que le rite commence par la musique, pour que ensuite passer aux autres étapes de ce rite. Et dans l'exposition du Louvre-Lens, on voit justement un autel sur lequel il y a une représentation, l'autel romain qui vient de Rome, et sur lequel il y a la représentation, le moment où le joueur Dolos attire l'attention des dieux et se concentre sur son jeu juste avant qu'on passe aux autres étapes donc, du rite.
La Grèce se compose bien sûr de nombreuses cités. Est-ce que l'on doit parler d'une musique ou de plusieurs musiques, ou d'une grande diversité de musiques au sein de ces cités ?
Alors il y avait sans doute des spécificités régionales puisque la Grèce est en effet sous tout le système politique et effectivement en observation ayant rivalité des cités par rapport aux autres, chacune se distinguant par des spécialités diverses. La cité de Thèbes par exemple en Béotie est particulièrement réputée pour ses joueurs d'Olos. Et par-dessus tout ça, la musique restait une composante majeure de l'éducation du citoyen, puisque tout jeune citoyen était éduqué par les deux mamelles, si je puis dire, de l'éducation, c'est-à-dire les textes homériques, on apprenait à lire par Homère, et l'apprentissage de la musique, ce qu'on appelle la paideia, l'éducation du citoyen.
Et puis rappelons que dans la Grèce antique, la musique n'est autre que l'art des muses.
Alors effectivement, le terme de musique, dont Sybille soulignait qu'il n'existait pas en Égypte, vient du mot grec du musikos aner, qui est l'homme en fait compagnon des muses, et qui a donné donc notre terme de musique. Et ça va devenir dans le monde romain aussi une représentation assez fréquente de l'homme cultivé sur les sarcophages, se fait représentant en tant que avec les muses, parce qu'il a l'habitude de les côtoyer.
Alors la Grèce serait le lieu, bien sûr, de nombreuses innovations d'ordre technique, technologique, mais surtout, et je l'ai lu, surtout le cadre d'une véritable révolution musicale. Qu'est-ce qu'on entend par cela ?
Alors, le terme de révolution, c'est Sylvain Perrault, donc, qui, dans son texte, parle de cette révolution, peut-être plus de manière interne à la Grèce par rapport à ce qui se passait à l'époque archaïque, pour lequel on a beaucoup moins de témoignages et une organisation peut-être, plus. Mais peut-être que c'est peut-être un peu compliqué de parler de révolution proprement parler.
En tout cas, c'est vraiment l'émergence de vrais professionnels, de virtuoses. Alors, on pourrait même dire, par exemple, des premières stars de l'humanité.
Ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez. Sybille reviendra peut-être tout à l'heure sur ce qui se passe en Égypte, en Orient, mais c'est vrai qu'en Grèce et en Rome, on a vraiment la naissance de musiciens en tant que tels. On les retrouve dans toutes les compétitions, qu'elles soient gymniques, théâtrales, ou encore musicale, et qu'on a vraiment l'émergence de personnalités qui sont réputées comme de très grands musiciens et qui pourraient effectivement avoir aujourd'hui subir le vocable de star ou de. Il y avait effectivement de vraies personnalités. Et pour le monde romain, c'est Néron qui effectivement est peut-être malheureusement celui qui est passé dans l'histoire comme soi-disant un excellent musicien et une star.
Je rappelle pour les éditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons avec Violaine Jamais et Sybil Emery l'archéologie musicale de l'Antiquité. Justement, Sybil Emery, il en était de même en Égypte, on avait des stars?
Non, c'est toujours ce qui m'a frappé dans la documentation égyptienne, c'est qu'on a des musiciens qui sont connus finalement surtout, essentiellement par leurs monuments funéraires, et ils cherchent à être représentés comme des membres de l'élite. Jamais un musicien dans un papyrus ou ailleurs est vanté pour son talent musical. On se rend compte que ce sont vraiment des serviteurs, ils sont au service des rites de la royauté, des rites divins, et ils ne font pas carrière. Il n'y a pas une scène où ils se produisent, il n'y a pas une tenue de scène, il n'y a pas des spectateurs, il n'y a pas des récompenses, qui est vraiment propre au monde grec puis au monde romain.
Oui, oui, puisqu'on les voit, on a la grande tenue de l'Aulette, qui est une espèce de grande robe, et puis les récompenses qu'on peut leur donner aussi.
Sybil Emery, vous travaillez bien sûr aussi sur les harpes de l'Égypte ancienne. En 2002-2005, une équipe allemande trouve dans des puits funéraires trois harpes que vous avez étudiées.
Oui, c'est vraiment une découverte extraordinaire, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait trouver des instruments aussi bien conservés encore aujourd'hui au XXIe siècle, puisque la plupart des instruments de musique que l'on possède dans les musées ont été trouvés au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, et les contextes archéologiques sont mal renseignés. Alors, pour une fois, on a le contexte archéologique, et malheureusement, il était payé dès l'Antiquité, mais les objets sont très bien conservés, et ça permet de faire des comparaisons, justement, avec les objets qu'on a dans les musées. C'est comme ça que j'ai rencontré Hélène Guichard et qu'est né le projet de cette exposition. Et on a lancé tout un système d'analyse pour essayer de comprendre l'objet musical dans son entier, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'un instrument de musique, comme objet archéologique, c'est un instrument qui a été fabriqué, donc qui relève de l'histoire des techniques, de l'histoire matérielle. Donc l'idée, c'était de comprendre quels matériaux étaient utilisés pour une harpe, par exemple, pour avoir l'utilisation jusqu'à 4 bois, ce qui est le cas de la harpe angulaire que vous voyez dans l'exposition. 4 bois ont été utilisés, plus la peau qui couvre la table d'harmonie, plus les cordes, plus des éléments en fibre végétale qui servent à attacher ces cordes. L'instrument de musique, il a aussi un fonctionnement mécanique puisqu'il est fait pour sonner. Donc on essaye d'étudier ses traces d'usure. Et enfin, on essaye de comprendre quelles étaient ses capacités sonores, même si on n'a pas de partition musicale, même s'il est très difficile de dire comment jouer d'une harpe égyptienne. À partir de l'iconographie, on a des images qui nous montrent comment l'instrument était tenu. Et surtout, grâce à des copies faites avec des luthiers, on comprend mieux la manière dont ils étaient façonnés, construit, la manière dont, d'un point de vue acoustique, ils fonctionnent et le son qu'ils sont capables de produire.
On aurait fait pousser des arbres avec une forme particulière pour les créer ?
C'est la conclusion à laquelle on est arrivé avec Susanna Schulz, qui est une luthière avec laquelle j'ai travaillé, qui habite à Berlin, puisque la harpe égyptienne sur laquelle nous avons travaillé mesure 1 mètre de long. Une seule pièce de bois, et une forme arquée, naturellement. Et bien sûr, on s'est posé la question de comment est-ce qu'ils avaient réussi à donner cette forme aux manches. Et on arrivait à la conclusion que c'était certainement en faisant pousser les arbres, en les contraignant.
Où ces trois arbres ont été trouvés ?
Alors, elles ont été trouvées à Drabou El Naga, qui est une nécropole qui se situe sur la rive ouest de Louxor, à Thèbes, donc une des régions les plus fouillées d'Égypte depuis le XIXe siècle, à côté de la pyramide du roi Antef, qui est un roi de la XVIIe dynastie. En fait, la mission allemande cherchait à retrouver cette pyramide royale, et comme c'était un roi qui était particulièrement vénéré, très rapidement, dès son décès, vous avez des tombes qui se sont dues sur se placer autour, et c'est dans 3 tombes, dans 3 puits funéraires qui appartenaient certainement une élite qui travaillait à la cour. Les harpes semblent être des cadeaux royaux. Et là, on arrive à un autre aspect que moi, je remets en question. Je ne pense pas qu'on a affaire cette fois-ci à des musiciens. Je pense que la harpe, ces instruments de musique ont un rôle symbolique qui est lié à la renaissance du défunt.
Est-ce que les sons étaient prévus à l'avance sur ces harpes ?
C'est fort possible parce que dans les observations que j'ai pu faire, la harpe du Metropolitan Museum of Art qui est exposée au Louvre-Lens, c'est quand même inouï quand on y pense que des instruments aussi fragiles viennent des États-Unis et nous ont été prêtés. Je crois que c'est un cas unique et vraiment j'invite les visiteurs à se rendre au Louvre-Lens pour découvrir ces objets. Sur cette harpe, vous verrez que l'emplacement des cordes est peint. Donc, sur les harpes de Drabou El Naga, j'ai les traces laissées par les cordes elles-mêmes, mais le fait d'avoir peint l'emplacement a l'air de bien montrer qu'il y a une technique d'accordage qui était recherchée.
En 1894, Gabriel Fauré expérimente un hymne de Delphes à Apollon. Depuis plus d'un siècle, l'archéologie, ou plutôt l'archéomusicologie, tente de retrouver, de rejouer des fragments de musique antique.
Oui, oui, absolument. Alors avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins d'exactitude, pour autant qu'on puisse aujourd'hui encore parler d'exactitude en essayant de restituer des sons. Donc bien sûr, ce qu'on entend, puisqu'il y a un certain nombre de bornes multimédia dans l'exposition, ce qu'on entend jouer avec l'hymne d'Apollon n'est en rien antique, si ce n'est la traduction elle-même de l'hymne à Apollon. Mais sinon, la musique n'est évidemment entièrement due à Fauré. Mais c'est pour en venir sur les sons, ce que disait Sybille, c'est ce qu'on voit maintenant, ce qu'on est capable peut-être de percevoir maintenant avec toutes les techniques qui sont à notre disposition, archéométriques, la restauration, etc. C'est de constater combien cet artisanat était d'une exactitude, et malgré l'aspect très empirique, et d'une technicité inouïe. Et plus on travaille sur l'artisanat, d'ailleurs, ce qui est une des grandes tendances de l'archéologie actuelle, plus on se rend compte qu'effectivement, on avait affaire à des artisans de grand génie.
Ce qu'on entendait, c'était de la cornue de Pompéi.
Alors ça, c'est encore une des nouveautés qui est présentée dans cette exposition. C'est effectivement une modélisation, une synthèse dite par modélisation physique, c'est-à-dire qu'en fait c'est un son totalement virtuel qui a été rendu possible par l'analyse d'un corps nu, enfin l'examen puis l'analyse d'un corps nu, d'un des 5 corps nus, donc une énorme trompette en forme spiralique qui a été donc retrouvée à Pompéi. Et cette trompette étant lacunaire, eh bien c'est vrai que ça c'est maintenant une des possibilités qui nous était offerte, notamment par l'IRCAM qui se lance dans ce genre d'expérience depuis maintenant un certain nombre d'années, pour tenter de retrouver un son qui est un son qu'on entend, qui est un son virtuel, mais qui est très étonnant. C'est vrai que la première fois qu'on a eu, Sybille avait organisé un colloque au mois de janvier de l'année dernière, et la première fois qu'on a entendu ce son proposé par l'IRCAM, moi j'avoue, j'ai eu la chair de poule. C'était un son venu de...
D'ailleurs,
absolument.
Sybille Emery, dans un autre ordre d'idées, que sait-on d'ailleurs sur la perception du son dans l'Antiquité, notamment dans l'Égypte ancienne?
Alors c'est justement un programme de recherche qu'on a tenu à développer dans les écoles françaises à l'étranger, qu'on a appelé les paysages sonores de la Méditerranée ancienne, pour dépasser la notion simple de musique et s'intéresser au son dans sa globalité, et donc quelle perception on avait des sons dans les sociétés anciennes. C'est surtout à partir des textes, bien entendu, qu'on peut avoir cette approche. Et pour l'Égypte ancienne, c'est là où je me suis rendu compte justement qu'on n'avait qu'un seul terme, rerou, qui signifie bruit, et qu'à partir de ce terme, on va dire si le bruit est agréable ou désagréable.
Reste la grande question, qu'en est-il de la notation musicale? Elle apparaît visiblement en Mésopotamie et elle est diffusée.
Alors la notation musicale apparaît en Mésopotamie, on en a des traces sur des tablettes, dont une qui est présentée au Louvre-Lens et qui date du XIIIe, XIVe siècle avant Jésus-Christ.
Qui vient de Syrie probablement,
qui vient d'Ougarit, et qui nous indique qu'en tous les cas il y avait déjà un savoir au deuxième millénaire dans l'Orient ancien. Curieusement, à ce jour, aucune trace dans l'Égypte ancienne, et je crois même d'ailleurs qu'il se passait totalement de notation musicale, qui n'est pas du tout obligatoire pour pratiquer la musique. Et dans l'Antiquité, la notation musicale est affaire de savants, elle n'est pas l'affaire des musiciens, justement.
Elle est même affaire des scribes, de scribes et des lapicides, c'est-à-dire ceux qui gravent sur la pierre. Et la transmission se faisait oralement.
Sybille Emery, Violaine Jamais, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre exposition, Musique écho de l'Antiquité, actuellement au Louvre-Lens, à voir jusqu'au 15 janvier. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Brodin et avec la collaboration d'Anne Catherine Lechard. Vous pouvez bien sûr écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr.